Bonjour. Vous êtes bien installé? Prenez votre temps. C'est votre moment. Le calme vous entoure, votre respiration s'apaise. Vous êtes prêt. Vous saisissez ce livre qui n'attend que vous. Au creux de vos mains, il se réchauffe, se réveille et commence doucement à pénétrer votre esprit. Le livre En Vie, c'est l'occasion de partager avec vous mes expériences singulières, mes rencontres avec ces livres dont on ressort toujours un peu plus vivant. Quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Aujourd'hui, le premier volet de l'hilarante saga Wilt de l'anglais Tom Sharp. Wilt 1, ou comment se sortir d'une poupée gonflable et de beaucoup d'autres ennuis encore. Henry Wilt est à bout. La quarantaine passée, chaque jour lui rappelle sa médiocrité. Une carrière au point mort, des étudiants dégénérés et Eva, sa femme, qui ne rate jamais une occasion de le rabaisser. Certain que le monde lui refuse depuis longtemps une gloire bien méritée, Henry décide d'agir et de supprimer celle qui a fait de sa vie un véritable enfer. Evelyne Pieyer de la Quinzaine littéraire dit de l'écrivain anglais Tom Sharp qu'il est, je la cite, « un moraliste violemment drôle, salubrement grossier et épatamment tonique, dont la charge bouffonne a le pouvoir de dessalement réservé aux grands caricaturistes ». Reconnu depuis Wilt 1 comme l'un des plus grands humoristes anglais contemporains, Tom Sharp a reçu en 1986 le Grand Prix de l'humour noir pour l'ensemble de son œuvre. La saga Wilt est hilarante, de bout en bout. Dans ce premier volet, récit burlesque, ce qui compte, c'est la logique absurde d'une situation folle-dingue. Wilt met en boîte les valeurs d'une bourgeoisie à la dérive, l'argent, le sexe, la liberté des mœurs, le pouvoir par le savoir, l'épanouissement par les loisirs. Wilt, sorti en Amérique du Nord sous le titre « The Misadventures of Mr. Wilt », est aussi un film de 1989 réalisé par Michael Tuchner. Chaque fois qu'Henry promenait son chien, ou pour être plus précis, chaque fois que son chien l'emmenait promener, ou pour être exact, chaque fois que Mrs. Wilt leur enjoignait de débarrasser le plancher, car c'était l'heure de ses exercices de yoga, ils suivaient invariablement le même chemin. Le chien le prenait docilement et Wilt suivait le chien. Il descendait la rue, tournait devant le bureau de poste, traversait le terrain de jeu et passait sous la ligne de chemin de fer pour arriver au sentier qui longeait la rivière. Un mile au bord de l'eau, puis retour au bercail. Il repassait le viaduc, puis pénétrait dans ces rues où les maisons étaient bien plus grandes que la semi-individuelle de Wilt et il y avait des arbres et des jardins et les voitures Rover ou des Mercedes. Clem, un labrador à pédigré, ne pouvait faire ses petites saletés que dans ces caniveaux-là. Il s'y sentait plus à son aise. Pendant ce temps, Wilt jetait des regards d'envie sur ce beau quartier où il n'habiterait jamais. C'était à peu près le seul moment de la promenade où il montrait un intérêt quelconque pour le monde extérieur. Le reste du temps, Wilt suivait un itinéraire tout intérieur qui l'entraînait à mille lieues de son parcours apparent. Comme en un voyage mystique, voire même initiatique, il arpentait interminablement les chemins bien balisés qui menaient à la disparition de Mrs. Wilt, à la richesse, au pouvoir, aux décisions qu'il prendrait quand il serait nommé ministre de l'Éducation ou mieux encore Premier ministre. Expédient misérable qu'il ressassait en de silencieux dialogues avec lui-même. Si un passant avait prêté attention à Wilt, ce qui n'arrivait jamais, il aurait pu voir ses lèvres remuer et sa bouche se tordre. Parfois, en ce qu'il imaginait complaisamment être un sourire sardonique à la Richard Widmark. Cela voulait dire que Wilt examinait quelques dossiers épineux ou s'apprêtait à clouer le bec à un contradicteur d'une réplique bien ficelée. C'est au cours d'une de ses promenades, il pleuvait et sa journée avait été particulièrement éprouvante, que Wilt en arriva pour la première fois à l'idée qu'il ne pourrait jamais réaliser ses grands desseins tant que sa femme n'aurait pas été frappée par un malheur irrémédiable. Comme toujours avec Henry Wilt, ce ne fut pas une décision soudaine. Wilt n'était pas un décideur. Ses 10 années passées au Fenland College of Arts and Technology en tant qu'assistant de deuxième classe étaient là pour en témoigner. Pendant 10 ans, il avait enseigné la culture générale à des classes d'apprentis gaziers, plâtriers, maçons, plombiers. Enfin, il les avait tenus tranquilles. Et pendant 10 longues années, il avait passé ses journées à transbahuter de classe en classe des dizaines d'exemplaires d'Amant et Fils, des essais d'Orwell, de Candide ou de Sa Majesté des Mouches, et à remuer ciel et terre dans son effort non couronné de succès pour faire vibrer la corde sensible des apprentis. Rencontre avec la culture, c'est comme cela que M. Maurice, le directeur du département de culture générale, avait intitulé le cours, mais du point de vue de Wilt, il s'agissait plutôt d'une rencontre avec la barbarie. Et il ne fait aucun doute que cette expérience avait démoli les idéaux et les illusions qui l'avaient soutenu pendant ses jeunes années. On pouvait en dire autant des 12 années de son mariage avec Eva. Si les gaziers pouvaient bien rester toute leur vie hermétiquement insensibles à la charge émotionnelle des rapports interpersonnels tels que les dépeint amant et fils, et même rire grassement des profondes découvertes de D.H. Lawrence sur la nature sexuelle de l'existence, Eva Wilt était incapable d'une pareille indifférence. L'enthousiasme avec lequel elle se précipitait dans toutes sortes d'activités culturelles et éducatives terrorisait Wilt. Pire encore, son idée de ce qui était culturel changeait de semaine en semaine. C'était parfois Barbara Cartland et Anya Seton, parfois Ouspensky, voire Kenneth Clark, mais plus souvent encore le prof de poterie du mardi ou le méditant transcendantal du jeudi, de sorte que Wilt ne savait jamais sur quoi il allait tomber en revenant chez lui, si ce n'est un mauvais dîner, quelques phrases bien senties sur son manque d'ambition et un peu de micmac intellectuel mal digéré qui le laisserait pensif. Pour échapper aux souvenirs des gaziers en tant qu'êtres humains en puissance et à celui d'Eva dans la position du lotus, Wilt marchait le long de la rivière en roulant dans sa tête de sombres pensées qu'assombrissait encore l'idée que pour la 5e fois consécutive, on refuserait de le faire passer maître assistant. À moins d'agir promptement, il resterait voué à gaz 1 et plâtre 2, plus Eva, pour le restant de ses jours. Impossible. Mais que faire ? Un train passa au-dessus de lui en grondant. Wilt resta un moment à contempler ces lumières qui s'éloignaient. Il rêvait d'accidents horribles provoqués par des passages à niveau défectueux. « Il est tellement bizarre en ce moment, » dit Eva. « Je ne sais vraiment pas quoi en faire. »« Avec Patrick, moi je n'essaie même plus, » dit Mavis Bertram, tout en considérant d'un œil critique le bouquet d'Eva. « Je crois que je déplacerai le lupin un rien plus à gauche. Cela mettra pleinement en valeur le caractère presque oratoire de la rose. Et l'iris de l'autre côté. » Il faut s'efforcer d'arriver à un effet quasiment musical dans les oppositions de couleurs, un effet de contrepoint, si tu veux. Eva hocha la tête et soupira. Il avait tellement d'énergie. Maintenant, il passe son temps devant la télé. C'est tout juste. Les enfants lui manquent, dit Mavis. C'est pareil avec Patrick. Oui, mais il en a, au moins. Henri n'a même plus assez d'énergie pour en faire. Excuse-moi, Eva, j'avais oublié. Dit Mavis en arrangeant le lupin pour qu'il s'oppose de façon significative au géranium. « Pas de quoi être désolée, » dit Eva, qui n'était pas pleurnicharde. « Je devrais plutôt être reconnaissante. Essaie d'imaginer des enfants qui ressembleraient à Henri. Il manque tellement de créativité. Et puis c'est si fatigant, les enfants. Ils t'enlèvent toute énergie créatrice. » Le livre en vie, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Ludo, du lycée des Arènes et aux commandes de la technique de m'avoir accompagné aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous ferai découvrir ou redécouvrir le très talentueux Patrick Besson et son très beau roman, Dara. Très belle semaine et douce lecture sur Esprit Occitanie. Et n'oubliez pas, le livre papier, c'est la liberté.